This is a different animal when you get to the playoffs.
Randle the drive, pulls up, puts it in, and it's Bedlam here at the goal. Big finish for Julius Randle. Knicks get their first playoff victory in 8 years.
Parce qu'il ne faut jamais perdre espoir, amis des Knicks, bonjour ou bonsoir. C'est toujours avec un énorme plaisir que l'on vous reçoit pour ce nouvel épisode de The Knicks Episode. Avec aujourd'hui un programme, ma foi, très alléchant. On va bien évidemment parler de l'aventure des Knicks en playoff. On va également parler des perspectives aussi pour certité. Et puis avant tout, on a la joie de recevoir un nouvel invité, Abdoul. Donc on fera un petit peu là le tour de table. Déjà, on va présenter l'équipe présente pour ce podcast. Donc Johanny, bonjour.
Bonjour à tout le monde.
Juju, bonjour à toi.
Salut les gars.
Et enfin Abdoul, salut.
Hello la famille Nix.
Abdoul, c'est un plaisir de te recevoir pour ce podcast. Donc Abdoul, si tu pouvais un petit peu te présenter, quelle est ton activité, et puis évidemment, comment tu t'es retrouvé fan des Knicks, c'est toujours intéressant pour tous.
Écoute Lolo, bon, toi tu le sais, et toute la Knicks Family, KNF en tout cas le sait, mais pour ceux que je n'ai pas croisé, ceux que j'ai pas encore vu en live, avec qui je n'ai pas encore échangé, je fais partie de cette petite vieille équipe des fans des Knicks fin des années 80, début 90. Donc vraiment la belle époque Ewing, John Starks et toute la clique, ceux qui avaient un basket dur et qui mettaient un peu le feu sur le terrain, qui nous faisaient rêver dans leur comportement basket, parce que c'était des mecs acharnés, ils avaient un cœur de fou. Et il te donnait envie de jouer au basket, tout simplement, quoi. Mais c'était une époque aussi qui allait avec. Et donc voilà, cette équipe était belle. Les mecs avaient la hargne. Et du coup, je suis tombé fan, quoi. J'aurais pu tomber fan des Bulls de la même époque ou des Lakers. Mais non. Voilà, tout simplement. Mais non. Moi, c'est le Orange and Blue qui a tapé dans mon cœur. Et puis, j'étais aussi un grand fan de la ville de New York, parce que l'un va pas sans l'autre, je pense.
Ouais.
Quand on est fan des Knicks, c'est parce qu'on aime New York aussi. Et voilà, j'étais jeune, l'esprit frais. Et New York était la ville qui faisait rêver. Elle était proche et loin en même temps. Donc voilà, j'ai adoré. J'ai eu quelques contacts assez rapides avec les Knicks dans mes petits voyages à New York. Et donc du coup, dont un mémorable où j'ai croisé, alors c'était pas l'équipe A, c'était pas les stars de l'équipe, mais sur un des terrains, donc à l'époque, ils étaient venus à Harlem, et voilà, t'avais 2-3 joueurs des Knicks, et du coup, tu vois, quand t'as 19-20 ans, tu vois ça, c'est bon, quoi, t'es refait à vie, quoi.
T'as choisi ton équipe, c'est bon, quoi.
C'est terminé, là, t'es fan à vie, et puis t'as une ambiance de fou, les New Yorkais, ils te font vibrer, et puis c'est fini, quoi. Et puis tes enfants, s'ils sont plus fans des Knicks, tu les répudies direct.
Voilà, pensez à tous les pères de famille qui ont des fans de Steph Curry ou
exactement
des Brooklyn Nets.
Je te dis ça dans le fun, je pense à mon fils qui justement est fan de Steph Curry, et je crois qu'on s'entend pas.
question de génération.
Voilà, donc voilà pour la partie Knicks, et depuis je les lâche pas. Bon, j'ai eu un petit moment de flottement comme tout le monde, hein,
où,
la famille prend un peu le pas sur tes activités de fan et autres, mais tu gardes toujours un œil, et puis après ça se rebooste, tu repars, et puis après tu croises le chemin de petits gars qui aussi sont fans, et tu te dis, ah, je suis pas tout seul au monde.
Et puis tu croises le. Tu croises aussi le chemin d'une association, non?
Ouais, exactement. Ouais. Je croise des gars qui s'appellent la Knicks Nation et Knicks Nation France. Et tu te dis, ouais, t'es pas tout seul. Et voilà. Et puis, bah, on se croise dans les petites activités, justement. À l'époque, c'était à Aubervilliers, là, où. Oups.
À l'époque, on a l'impression qu'on parle d'une époque qui est très lointaine, mais oui, la vie avant Covid.
Ouais, parce qu'avant le Covid, on avait des activités, donc. C'est pas si vieux, mais voilà, ça te remet un petit élan et tu vibres avec toute une bande de potes et là tu repars à fond, quoi. Donc ouais, j'étais content de croiser la Knicks Nation Family. Donc du coup t'es là, t'es prêt à revendiquer ton amour des Knicks malgré tout, malgré que l'équipe ne performe pas.
Mais tu restes infidèle. Ça c'était avant, parce que maintenant l'équipe.
je ne parle que d'une vieille époque.
De défaite, mais ça fait partie ouais. Du passé tout ça maintenant.
Ouais. Je ne parle que d'une vieille époque où c'était dur. C'est-à-dire que t'étais une fan des Knicks et tout le monde te regardait, même tes potes les plus fidèles. À un moment, tu disais, mais il faut que t'arrêtes là.
Non, les gens te demandaient pourquoi. Il fallait se justifier. Mais bon.
C'est quoi ton problème? Faut que t'arrêtes.
Donc, le basket peut faire souffrir.
Le basket peut faire souffrir. Ouais, tu peux perdre des amis. Tu les vois autrement, tu vois. Tu te dis, on est censé être des fidèles jusqu'au bout. Mais et là, tu te rends compte qu'en fait, non, les mecs te tournent le dos, quoi. Dans la détresse, ils t'achèvent.
Ah là là. Voilà, c'est pour ça que si la CANEF existe, hein, parce que ça permet de se soutenir mutuellement dans notre
domaine. Exactement. Là, j'ai brandi une bannière et j'ai expliqué à tout le monde que j'étais pas tout seul. Et là, maintenant, on allait vous en faire voir de toutes les couleurs. Et en tout cas, vous allez en prendre du orange and blue. Et voilà, grâce à la CANEF, les petites activités, les rencontres basket et puis les viewings. Et je parle même pas des voyages, voilà, ça fait revibrer le cœur, et puis on est reparti à fond, quoi, fan d'Enix, et puis là, je te parle même pas de cette année de folie où c'est voilà, quoi, t'es inespéré, et puis t'es même pas, t'es, on est dans les étoiles, là. On attend encore l'année prochaine, mais en tout cas, cette année, on a eu ce qu'on voulait, et c'est l'essentiel. Donc voilà un petit peu pour moi, les gars.
Ouais, bah de toute façon, vous avez bien compris que Abdoul fait partie du board Knicks Nation France. Donc c'est toujours un plaisir de pouvoir justement monter ces différents projets ensemble. Et puis comme tu le disais très bien, le fait de pouvoir partager cette passion avec tous dans des années qui n'étaient pas terribles. Là, c'est la seule année où vraiment on a une équipe compétitive parce que l'association maintenant en 5 ans. Là, c'est la 5e saison. Donc voilà, c'est vraiment un plaisir, déjà un, d'avoir des personnes investies autour du projet, et puis et également tu animes également la partie Instagram de Knicks Nation France aussi.
Ouais, j'allais en parler, mais comme on est deux là-dessus, toi et moi, et donc je fais un peu l'homme de l'ombre sur
Insta. Donc aujourd'hui, on te donne un peu de lumière.
Ouais, vous me mettez en lumière. Je vous remercie.
On voit le visuel sur Instagram. Aujourd'hui, on a la voix. On a la voix.
On a la voix. Ouais.
Qui ne connaissent pas. Donc, on est très content de t'accueillir sur cet épisode un petit peu de fin de saison. Mais je suis sûr qu'on te retrouvera très bientôt sur d'autres épisodes, ça c'est certain.
Bah écoute, c'est comme tout, t'y prends goût, et puis une fois que tu commences, t'as plus envie d'arrêter, hein, c'est ce qu'on dit. Et puis, il en sait quelque chose, Laurent. Mais c'est kiffant, donc et puis on est ensemble, donc dès qu'on partage un peu, qu'on échange, qu'on se taquine un peu sur le sujet, voilà, c'est toujours plaisant et c'est toujours mieux que d'être dans son coin à radoter et à bougonner. Et là on peut se parler, on peut échanger, on peut se parler de choses qui vraiment nous définissent un peu, tu vois, tout ce qui est autour de l'amour des Knicks, et moi je trouve ça génial, donc ouais, c'est cool de pouvoir en parler avec vous maintenant, et puis bien sûr, dès que l'occasion se représente, je ne refuserai plus.
En tout cas, voilà, c'est un plaisir vraiment de t'accueillir sur ce podcast, Abdoul. Maintenant, on va rentrer un petit peu dans le concret, les gars. Les Knicks, en playoff cette saison. On attendait ça depuis 2012, là. Ça fait un petit bout. Et on a beaucoup vibré. Alors, on a essayé justement de vous retranscrire un peu toute cette ferveur là, tout autour du Garden, autour des Knicks, toute cette hype qui est montée crescendo via nos différents canaux, hein, Twitter, Facebook également, sur Insta, bien évidemment aussi, quelques vidéos également sur YouTube sont disponibles. Et voilà, moi j'aimerais un petit peu avoir votre ressenti sur ce parcours des Knicks, qui s'est terminé sur une défaite 4-1 face à Atlanta au premier tour. Donc, je ne sais pas qui veut se lancer en premier, juste pour donner un petit peu son ressenti. Et voilà, comment vous l'avez vécu chacun de votre côté. Je ne sais pas, Juju, si tu veux te lancer.
Déjà, kiffant de retrouver nos Knicks après tant de saisons hors play-off. Une grosse ambiance, une ambiance de dingue à New York, je pense que tout le monde l'a vu. Les joueurs, les observateurs, les fans, c'était un plaisir incroyable.
Les adversaires aussi.
Ouais, une ambiance de folie, Une ambiance de folie. et je pense que la ville en avait besoin. Je pense que déjà, pour deux raisons, c'était la folie. Bon, la première, c'est toujours au Madison Square Garden, une ambiance particulière. New York, il y a une ambiance quand même différente des autres salles NBA. C'est comme ça pour le sport américain en général. À New York est différent du reste des États-Unis. Toujours plus fou, toujours plus dans l'ambiance. Et puis, il y a eu le Covid qui est passé par là. Une frustration énorme pour tout le monde de ne pas pouvoir aller au Garden depuis pratiquement un an et demi. Là, ça arrive, les gens peuvent aller au Garden au moment des playoffs, donc c'était la folie. Il y avait tous les ingrédients pour que ça soit dingue. Ça a été dingue. Ça a été frustrant parce que d'un côté, t'avais qu'une envie, c'était de partager ce moment. Le dernier moment plus, c'était au Garden, c'était contre Houston. Et c'était déjà la folie. C'était un match saison régulière avec une équipe en bois du côté de New York. Et pourtant, on a vibré comme jamais. Alors imagine là, avec une superbe équipe, une ambiance, un ennemi très, 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 très sympathique à détester. Non, ça devait être dingue. C'était dingue de voir les images. C'était dingue sur les réseaux. Un peu trop court à mon goût. Un goût trop peu. On va parler sur le sportif après, mais en tout cas, voilà, ouais, dinguerie.
Ouais, l'ambiance était folle, quoi. On l'a senti dès le match 1. Le Garden était prêt, a répondu présent. Le public était en nombre, hein, massivement, 15, 16 000 spectateurs. Effectivement, il y avait une attente. Ça fait un moment qu'on se disait, imaginez quand les Knicks vont retrouver les playoffs, comment le Garden va vibrer. Ben voilà, il n'y a plus à imaginer, on l'a vu, quoi. On a vu ce que c'était. Alors ouais, effectivement, on aurait préféré avoir une série qui dure un peu plus, qui soit un peu plus accrochée, on va revenir dessus, on va en parler. Mais ne serait-ce que pour l'ambiance, pour le retour des playoffs à New York, au New York Knicks, au Madison Square Garden, c'était des frissons, quoi, en fait. Voir le public réagir avant, pendant, après le match, après la victoire. C'était vraiment une dinguerie, quoi. Donc de témoignages de spectateurs, de Knicks fans qui sont des personnes aguerries avec qui on est régulièrement en contact aussi sur les réseaux sociaux, les gens témoignaient en disant qu'effectivement là cette année il y avait eu quand même une ambiance de feu et même ne serait-ce que nous au travers de nos écrans à distance on pouvait le ressentir.
C'était du pur kiff, quoi. Palpable, complètement. Et puis, c'est toi, Johnny, qui évoquais le fait que New York était prêt, ou je ne sais plus si c'était Juju, mais New York était plus que prêt. Tout a été fait en sorte pour réouvrir les jauges en temps et en heure. Tout a été fait en sorte pour que le Madison soit le réel sixième homme pour cette équipe-là. Et effectivement, mais sur chaque panier, c'était le feu. Sur chaque temps mort, c'était le feu. Et il y a beaucoup de personnes qui suivent la NBA de manière globale et qui suivent les playoffs en particulier, qui ont pu sentir vraiment cette fièvre qui était totalement contagieuse. Je pense que ces images-là qui ont fait le tour du monde, parce que évidemment avant ce match de playoffs-là, les jauges étaient ultra réduites et on était vraiment dans une atmosphère un peu de bulle.
Et déjà encore, il y a le public donnait de la voix. On l'entendait, on avait vu on avait senti la différence, le retour du public, même à 2000 personnes, 3000 personnes. Mais alors le jour où ils ont ouvert pour faire arriver pour les playoffs, Voilà, on avait changé de niveau et ça s'est ressenti directement, quoi.
Après, le public était prêt mentalement, hein. Les mecs, ils en voulaient, hein. Comme tu l'as dit, ça faisait un an qu'on les bloquait, qu'on les verrouillait. Puis enfin, l'esprit new-yorkais, ça va à contresens, quoi. C'est totalement le contraire. C'est la liberté, c'est comme disait Julien, l'excès dans l'expression. Donc il fallait absolument un moment que ça sorte. Et au moment où on leur a donné le top, il était évident que ce public-là n'allait absolument pas rester soft et venir s'asseoir sur les bancs tranquillement à regarder un match et à crier yes. Non, ils ont été fidèles à ce qu'est le public new-yorkais, dans l'excès, mais un vrai public de fans. C'est-à-dire que là,
passionné avant tout, et passionné avant tout, quoi.
Exactement. Derrière son équipe, ils ont mis le paquet, quoi. Ils ont mis le paquet dans tout. Ils ont soutenu l'équipe même dans la peine, parce qu'ils voyaient bien que l'équipe était pas forcément au top. Mais à aucun moment ils les ont lâchés, quoi. C'est pur, quoi. C'est beau. Et nous qui étions derrière à des milliers de kilomètres, on a la frustration de pas pouvoir y être, parce que on a tous rêvé là un moment se dire dès que le Garden ouvre, bah tout le monde veut foncer, y aller et autres. Mais le fait de les voir, t'avais l'impression d'être avec eux.
Ouais, d'en faire partie.
Et ouais, t'avais l'impression d'être dans la salle. Ceux qui ont vécu en plus une ambiance au Madison, ouais, t'étais là, quoi. On était là.
Il y avait des frissons
devant ton écran. T'avais les frissons. T'étais dedans. Et c'était magnifique.
On a eu l'occasion pour le match 2. C'était vraiment le match 2, de faire un petit live Instagram, et on remercie d'ailleurs Emeric, enfin Fresher sur Instagram, pour nous avoir permis de faire l'envoyé spécial. Donc on a pu faire un petit peu, une heure avant le début du match, une prise de température pour voir aux abords du Garden comment le public répondait présent. Et voilà, c'était très sympa, et oui, ça permettait de se mettre un petit peu plus dans l'ambiance, même si on ne pouvait pas voyager cette saison, cette année, de faire un petit peu partie du voyage et de l'aventure pour ces playoffs. Et alors, comme vous disiez, oui, le public était prêt, surtout que la saison a été plutôt belle, a permis de regagner le cœur des New-Yorkais. Voilà, il ne pouvait que répondre présent, et pas besoin de promo code pour remplir les gradins, quoi. Il n'y avait pas besoin de tout ça.
La gratuité.
Oh, ben,
cela une balle perdue.
mais voilà, ouais, non, le public. Alors autant à New York, on va pas sortir les maillots toute la même couleur pour habiller le Garden. Il y a pas besoin de ça. Les gens ont des différents jerseys, des différents époques, des différents joueurs, et ils savent répondre présent au moment où on les attend, quoi.
Mais tu sais, tu parles de reconquérir le cœur. Ce serait plus moi la fierté, en vrai.
Parce oui, que
le
c'est
cœur,
ça.
Ouais. Le cœur est là. Moi, c'est plus
c'est ce que j'allais dire.
De fierté, ouais. En fait, qui caractérise la ville. Fierté dans plusieurs sens. Donc, fierté évidemment de pouvoir revoir leur équipe préférée au premier plan. Ça, c'est la première chose. Fierté aussi vis-à-vis de tout le dispositif qui a été mis en place par rapport au Covid. Bah, de pouvoir à nouveau faire du bruit et se rassembler au Madison. Donc il y avait vraiment deux messages parallèles dans tout ça, quoi.
Mais New York, en fait, est une ville qui a eu des difficultés, hein. Il y a eu les attentats du 11 septembre et tout, dans les événements, on va dire, assez récents. Et même blessée, elle se relève tout le temps, en fait, quoi.
Tout le temps.
C'est la résilience à l'état pur. C'est une ville, c'est un peuple new-yorkais qui fonctionne à l'énergie. Et qui se laisse pas abattre, en fait. Et les Knicks, c'est ça aussi, même si il y a des saisons où on a été au fond du trou, il y en aura sûrement d'autres, ça reviendra, hein, je veux dire, la NBA s'est fait de cycles. Et ben voilà, le fait de se relever, de redevenir conquérant, c'est ce qui caractérise New York. Donc là, il y avait la parfaite adéquation entre le public et l'équipe, et c'était top.
C'est aussi ça qui caractérise un peu la fanbase des Knicks, hein. C'est que les mecs sont des purs New-Yorkais, et même quand l'équipe allait pas bien, ils crachaient pas dessus. Ok, c'est pas grave, l'équipe va pas bien, mais on attend, ils vont revenir. jusqu'au bout, les mecs ils y croient quoi, et ils tombent pas le doigt à l'équipe, et même quand c'est il y a des moments, on a vu hein, ces dernières années hein, c'était pas il y avait des choses bien vraiment discutables hein, malgré tout les mecs étaient là quoi, le on n'a jamais vu un garden vide, jamais.
Ouais. Bon, il y a quelques chants de protestation parfois, mais voilà, effectivement on sent que le public il reste derrière l'équipe quoi.
Il exprime sa colère, il a raison.
La frustration.
Mais tu lâches pas. Mais tu ne lâches pas. Et c'est exactement ça, comme tu disais, l'esprit new-yorkais, c'est que même quand les choses vont mal, à un moment ou à un autre, ça va repartir. Donc on se tient prêt, quoi. Et c'est ça qui est kiffant. Et quand tu les vois repartir comme ça sur une année, sur une si belle année, bon après là, la fin, elle est pas ce qu'on espérait, mais on ne peut que être satisfait, quoi. On peut que se dire c'est magnifique et on se prépare, on se met à rêver pour l'année prochaine.
Globalement, il y avait de la satisfaction. Les gens étaient contents d'avoir retrouvé les playoffs, d'avoir remis un peu les Knicks sur la carte NBA. C'est sûr que la fin, on aurait préféré une fin différente. Mais il y avait quand même ce côté, on est content de retrouver cette équipe, de retrouver ce niveau aussi. Donc ça permettait, on va dire, de faire un peu mieux passer la pilule sur l'élimination tout de même en
play-off. Les play-offs, c'était qu'un bon moment en plus. Au début de saison, on a déjà 10-20 fois, on est pronostiqué avant-dernier de la Ligue. On finit quatrième de la conférence Est. Alors après, j'ai vu des gens qui étaient gourmands, disaient, on se choque, on n'assure pas, je suis dégoûté. Voilà, on peut être déçu de la manière dont on s'est fait taper 4-1. Face à une équipe qui est plus forte que nous, qui est construite pour être plus forte que nous à la base à l'intersaison, qui a mis du cap space là où nous, on a été plutôt mesurés, où nous, on n'a pas pu avoir les pièces qu'on voulait. Donc, eux, ils ont carrément mis all-in, les Hawks. Donc, forcément, voilà. On oublie aussi que sur la conjoncture, nous, on était sur une très bonne dynamique, mais les Hawks étaient sur une dynamique magnifique depuis qu'ils ont changé de coach, que le talent intrinsèque des Hawks est largement supérieur au nôtre, enfin, offensivement parlant en tout cas. Là, et puis, ils ont fait franchement, les Hawks ont fait un super taf en défense. C'était pas forcément
monstrueux.
Leur partie principale, leur qualité. Mais franchement, quand tu vois ce qu'ils ont fait, tout simplement, c'est déjà Randle, ils nous l'ont annihilé. Tu vois, le mec, ils ont dit, les gars, à 3 points, il y a un mec à l'extérieur qui ne lâche pas, et à l'intérieur, ils ont foutu Collins et à tour de rôle Capella, donc ils ne pouvaient pas rentrer à l'intérieur sans avoir un ou deux mecs sur le rable. Et à l'extérieur, ils n'ont pas laissé prendre la confiance à 3 points, ce n'est pas Stephen Curry, on l'a déjà vu toute la saison. Randle a un shoot à 3, mais il faut pour ça qu'ils se mettent en confiance, qu'ils se mettent du rythme. C'est pour ça que sur les 3e, 4e quart-temps, on est souvent en feu et il augmentait son scoring. Là, on l'a bien vu. Le gars était jamais en rythme, jamais en confiance. Il refusait shoot à 3, il savait pas trop quoi faire. Donc, ils nous ont plié Randle, quoi qu'on en dise, c'est quand même. Enfin, il a fait une super saison, personne l'a critiqué, mais ce que je veux dire, c'est notre plaque tournante. Donc à partir du moment où tu bloques la plaque tournante, le problème c'est que derrière Barrett, on va pas lui tomber dessus. Le gars, il a fait une saison, premier step-up, c'est les playoffs. Il arrive en playoffs, bah, il a un mur en face. Tu vois, on a vu Derrick Rose, lui, c'est pas ses premiers playoffs. Il a été plus à l'aise.
Il savait quoi faire.
Donc nous, on se retrouve avec des petits jeunes qui n'étaient pas programmés pour être en play-off, une équipe qui n'est pas calibrée pour ça, qui se retrouve en play-off. C'est cool. On avait l'agnac, on avait envie, mais Thibodeau n'a pas trouvé les armes. Et est-ce qu'il les avait aussi pour les trouver, c'est une question.
Il a tenté l'ajustement, tu vois, le fait de retirer Payton du 5.
Mais bon, c'était quand même assez court. En face, quand tu vois les Bogdanovic, les Trey Young et tout ça, ça met dedans, c'est insolent.
Moi, ce que je voyais sur les réseaux, c'était en gros la volonté, l'équipe de la volonté contre l'équipe du talent, quoi, en fait. Et l'équipe du talent, c'était clairement les Hawks. Les Hawks étaient mieux armés pour...
Pour le coup, les Hawks... on parlera de notre ami le pigeon après, mais pour les Hawks... Ils ont montré une certaine hargne quand même. Ils n'étaient pas là en mode touriste non plus. Ils ont montré quand même un peu de caractère. On peut leur accorder ça aussi, tu vois. Donc, nous, on a joué un peu trop sur notre caractère. Et puis, je voudrais juste mettre une petite pièce sur Topin, qui a été moins mauvais en play-off qu'en saison régulière. Tu vois,
c'est... Ouais, clairement, l'attitude
était meilleure.
Ouais, l'attitude et tout, il a montré. Après, pour le reste de l'équipe, c'était quand même trop court. Et là, on voit quand même nos limites. Je vous laisserai la parole après. Mais tu vois, sur des Bullocks. Sur, comme il s'appelle, Burks, qui a fait un super match, mais après qui a été très très moyen. Voilà, quand le niveau augmente, quand la pression est là, ça a été quand même assez difficile. Et Payton.
L'émotion était palpable. Et je pense que l'équipe, en fait, a eu du mal à gérer le côté émotionnel de l'événement. Le fait de remettre New York sur la carte et le fait d'avoir un Garden plein avec énormément d'attentes. Et le nombre de messages qu'ils ont reçus, tu sais, le message de soutien qu'ils ont reçu en off, les joueurs. Franchement, c'était, Ça a été pour le coup très émotionnel. Tout est basé dans l'émotion et je pense que l'équipe, en fait, n'était pas nécessairement prête d'un point de vue expérience à devoir gérer tout ce côté émotionnel-là, en fait.
Ouais, effectivement, il y avait une pression parce qu'il y avait une attente, il y avait le public. Mais le public était bienveillant vis-à-vis des Knicks. Mais effectivement, retrouver les playoffs alors que tu n'étais pas censé les jouer, avec l'avantage du terrain, c'est super. Mais du coup, ça rajoute une petite pression supplémentaire. Je ne sais pas si on avait commencé, on va dire, à l'extérieur et enchaîné plutôt les matchs 3 et 4 à New York, est-ce que ça aurait été une autre série? Aucune idée, franchement. Parce que pareil, hein, Atlanta, l'expérience, elle est pas énorme hein, en play-off. Enfin, Trae Young, il faisait ses premiers play-offs, Bogdanovic aussi. Donc, on l'a vu sur le match 1, c'était pas folichon d'entrée de jeu. Il a fallu se remettre en marche aussi. Donc, ça a joué, forcément. Mais de là, je sais pas si c'est ça qui a fait qu'on a perdu nos repères d'entrée de jeu.
Je pense qu'ils ils étaient juste pas prêts. Ils étaient juste pas prêts pour les playoffs. Les mecs étaient. Enfin, c'est une équipe qui est en construction. Hein, faut pas l'oublier. Donc il y avait encore pas mal d'ajustements à faire. Même si on a eu du renfort là avec des mecs expérimentés. Comme Derrick Rose. Ils peuvent pas booster l'équipe au point de les emmener vraiment en deuxième tour. Là on avait une équipe quand même. On a parlé de Randle rapidement, mais Randle pour lui c'était une aubaine. Et là il se retrouve être la tête de l'équipe des Knicks avec une pression de dingue et une équipe en face qui le verrouille totalement.
Donc clairement
il faut regarder le jeu. Hein, tu observes. Il a paniqué. Il a clairement paniqué. Il est devenu agressif. Il est devenu tout ce qu'il faut pas faire à un moment où justement tu dois rester serein et essayer de maîtriser ton jeu. Il faisait des trucs. Ben tu sentais la panique, tu sentais le manque de confiance. Et plus on avançait dans les matchs, et plus tu voyais qu'il manquait de confiance. Comme l'a dit Julien tout à l'heure, il prenait plus de shoot. Or que théoriquement, c'est justement là où tu dois tenter, où tu dois te dire, bon, je me mets en position et je vais shooter. Mais le mec, non, il faisait des trucs, il faisait des passes que même...
En tribune.
Tu vois, même un Benjamin te fait plus ça, quoi. Tu vois, le mec, tu le sors direct, tu le renvoies chez sa maman. Là, il faisait des trucs qui étaient limite pour un joueur de, on va dire, de la stature qu'il commençait à prendre. Donc ça remettait en question un petit peu l'homme, injustement, je pense, parce que il faut quand même lui rendre le mérite d'avoir emmené les Knicks jusqu'en playoff, quoi. Et l'année prochaine, je pense que là, avec cette expérience là, ils pourront aller un peu plus loin. Mais là, ils étaient pas prêts. Les mecs étaient hargneux. Ils nous ont verrouillés de tous les côtés. Ils n'avaient pas d'appui. C'est compliqué.
C'est en fait le fait justement de remettre New York sur la carte avec pas nécessairement un sidekick d'un niveau all-star. Donc moi c'est pour ça que les mecs qui tombent sur Randle, tu peux être frustré évidemment parce que la frustration vient du fait que tu te fasses taper par le cinquième de la conf, que à l'heure où tu arrives en playoff, au premier tour, tu as potentiellement un adversaire qui est à ta portée.
Ouais, alors on en avait parlé, on espérait une meilleure opposition, ça reste quand même la série 4-5, c'est la série qui se veut, sur le papier, la plus équilibrée, parce que c'est les deux équipes les plus proches, et puis c'était un 4-5 qui partageait le même bilan, c'est juste qu'on les avait tapés trois fois en saison, mais dans des circonstances différentes, quoi.
Pour moi, quatrième, c'est un trompe-l'œil. Pour nous, sincèrement, c'est
tout
pas
fait, tout à fait. Ouais.
Je pense qu'on n'est pas calibré pour être quatrième. On est heureux d'être quatrième, je dis pas ça.
On méritait plus une passe de 6, ça aurait été plus à l'image de niveau, quoi.
Voilà, 7-6 grand max, c'était notre niveau réel. Et c'est pour ça que Randle panique. Il panique. En fait, le mec, toute la saison, il se dit, il est all-star, il mérite, toutes les solutions viennent à lui, le jeu fait. Enfin, on a toujours au basket quand tu te sens bien et tout. Et quand boum! Premier match, t'as pas de sensation, tu te dis c'est pas grave, le match d'après ça va aller, mais
je vais rebondir.
Il n'a aucun moment, tu te lèves la tête, c'est match après match, le même déroulé, il n'y a pas de solution, il n'y a pas de sensation. Et tu voyais bien que ça forçait et que même il a retrouvé les défauts qu'il avait la saison passée.
Ouais, c'est ça, on retrouvait le Randle de l'année dernière.
Voilà, le Randle, je baisse la tête et je suis un peu plus buffle parce que j'ai pas de solution autour, parce que le jeu ne vient pas à moi, parce que plus compliqué.
Mais pourquoi ? Parce que aussi, toute la saison, il a été l'option numéro 1, offensive numéro 1, et l'animateur offensif, c'est lui qui faisait le plus de passes dans l'équipe, c'est lui qui animait le jeu, tout reposait en termes d'attaque autour de lui. Et là, lorsqu'il est arrivé en playoff, il a été scouté, et en face, les Hawks se sont mis à défendre, se sont fait violence pour défendre, parce que autant en régulière, bon ok, tu défends pas un match, c'est pas grave, tu le perds, mais t'as un autre match derrière avec une autre équipe, et voilà, le rythme n'est pas du tout le même. Dans une série, il faut tout de suite, il faut s'ajuster, et il faut tout de suite élever son niveau pour pouvoir tenir la distance sur la série. Et c'est ce qu'a très bien fait Atlanta, où ils ont interchangé plusieurs joueurs sur lui aussi, Collins se l'est fait, Gallinari aussi, donc... À chaque fois, il avait un à deux joueurs sur le dos et il essayait de rejouer comme il jouait en saison. Et là, l'adresse, les paniers ne rentraient pas. Il y a certains shoots qui étaient forcés et il y en a d'autres qui étaient ouverts. Et quand tu rentres pas tes shoots ouverts, ça commence à devenir compliqué le basket.
Et ouais,
donc
et ouais.
Randle, qui avait entre guillemets cette pression parce que c'était lui l'option numéro un, c'est de lui qu'on attendait des points, il voulait faire. Il voulait, il avait l'envie. Il n'y arrivait pas. Il n'y arrivait pas par la défense et il n'y arrivait pas parce qu'il ne rentrait pas ses shoots. Donc, une frustration qu'on peut comprendre est légitime. Et puis, il y a un supporting cast qui était pas non plus exempt de tout reproche. Même si Derrick Rose a montré un super niveau, dès lors qu'on l'a repositionné dans le 5 de départ, on a déséquilibré ce qu'on pouvait avoir comme équilibre entre la première unit et la seconde unit pour toute la saison.
Exactement.
Donc on a perdu nos repères assez vite, malheureusement. C'est dommage. Ça ne nous a quand même pas empêché de gagner un match. Faut quand même se rappeler de ce début de série. Mais on n'a pas su reprendre la main sur la série. Et moi, j'ai eu l'impression que toute la série, ces 5 matchs, c'est Atlanta qui dictait son jeu, quoi. C'est Atlanta qui dictait son jeu, même quand on était un peu devant au score. Toujours peur de se prendre un run ou de ne plus arriver à marquer pendant que les autres enchaînaient les paniers. Et c'est ce qui s'est passé, malheureusement.
On a perdu le premier match de peu, vraiment pas grand-chose. On aurait pu, avec un peu plus de détermination...
C'est celui-ci qui me laisse le plus de regrets, en fait, à vrai dire.
Ouais, carrément, parce qu'il se serait appliqué, il se serait vraiment défoncé. Il l'avait, ce match. Juste, mais il l'avait. Et moi, j'ai senti quand même sur ce premier match... autour de l'équipe là pas un manque de détermination, mais voilà, à un moment ils se sont dit ce sera pas pour aujourd'hui, et ils l'ont laissé partir ce match. Dommage. Il y a eu un petit élan après sur le second, mais ce match là était déterminant, en fait.
Ouais, parce que ça a tout de suite mis la confiance sur Atlanta, hein.
Et ouais, exactement, Atlanta, ils sont mis en confiance directe.
Ils ont pris la grosse confiance.
On a pris la première victoire, alors que tout le monde nous disait, vous allez vous prendre une claque. Et là, les mecs sont repartis, mais boostés comme jamais, quoi. Et là, et c'est ce qui a perturbé, je pense, les Knicks. Et quand tu parlais d'équilibre, au niveau des joueurs, là, ça a tout déstabilisé. En plus, le coach change un petit peu son staff de départ, son 5. Donc forcément, dans l'esprit des joueurs, ça joue, hein, qu'on veuille ou non. Donc chacun, en termes de confiance, hein, chacun se pose des questions. Est-ce que c'est moi le prochain?
Je savais déjà que Payton était comment dire, sur la sellette depuis un moment, beaucoup... Enfin, nous, on a suivi tous les matchs des Knicks, on savait qu'il était un peu le meneur titulaire par défaut, de mieux, et puis un peu pour préserver du Derrick Rose qui était plus utile en fin de match, dans le Money Time. Donc on le savait, mais arrivé en playoff, bon, on s'est dit, le match-up avec Trae Young, ça va être compliqué. Bon, si Payton arrive à défendre, ça peut le sauver un peu, ça peut nous aider. Rapidement, quand Thibodeau a fait ses ajustements, la sortie de la rotation, et qu'il s'est reposé juste sur Derrick Rose, il pouvait plus revenir en arrière, quoi. Il n'allait pas ressortir un mec qu'il avait publiquement et peut-être salement benché, même si tout le monde voulait le voir sortir. Mais il se retrouvait un peu dans une impasse de « Merde, j'ai grillé mon joker, j'ai mis D. Rose en titulaire, ok, il met des points en début, on prend pas l'eau tout de suite ». Par contre, sur la longueur, Derrick Rose, il s'éteint, quoi, malheureusement.
Il a oublié qu'il était vieux, Derrick Rose. Hein.
Mais après, tu vois, le fait aussi de se totalement couper d'une personne en plus dans la rotation, je pense que physiquement aussi, ça a pêché. Parce que là, du coup, Payton, non content de le cutter. Alors après, je te parle même pas de l'attitude du joueur au bout du banc où vraiment tu sens que le gars il est vraiment coupé du reste de l'équipe, mais ouais, totalement et mentalement.
Pitié à voir, on va dire.
Mais... clairement. Et là, en fait, si tu veux, d'un point de vue gestion purement physique, bah tu t'enlèves quand même un meneur de ta rotation et ça s'est ressenti en fait. Ça s'est ressenti.
Il n'y avait plus de souffle. Il n'y avait pas de souffle.
Alors je voyais sur les réseaux, parce que bah voilà, on anime les réseaux, ça parlait beaucoup. Oui, est-ce que Franck va, faut donner des minutes à Franck. Franck, on lui a donné quelques bouts de seconde. Franck, il a jamais été dans les plans du coach. Hein. Enfin, si on n'a pas compris après cette saison qu'il n'était pas dans les plans du coach, et c'est pas au moment des playoffs qu'on allait le ressortir comme par magie, un joueur qui n'était pas en rythme, pas en confiance,
il a pas été prêt.
De lui dire vas-y, allez maintenant, tu nous verrouilles un joueur ou tu rayonnes au niveau de l'équipe. Non, ça, il n'y a pas ce déclic, il n'y a pas cette magie.
C'est pas la montée de Thibodeau, hein. Plus
particulièrement. C'est pas la montée de Thibodeau, c'est pas forcément non plus la mentalité de Franck. Hein. On a beau bien l'aimer, il est très gentil, mais c'est pas un game changer. Faut pas se voiler la face. Il aurait pu aider, c'est vrai que c'est dommage de s'en être privé parce que on était sur une rotation courte et Derrick Rose. Même s'il a été rayonnant offensivement, défensivement, il prenait la marée sur Trae Young comme les autres. Hein, et personne n'a arrêté. Hein,
donc... Rose a plus 20 ans, hein, donc les efforts. C'est pour ça qu'il était très bien sur la seconde unité, c'est que l'opposition n'était pas la même en face. Quand tu le mets en face des titulaires, il a une opposition qui est forcément plus difficile. Donc il se crame un petit peu plus vite dans le match. Donc c'est vrai que t'as pas la même utilisation et il permet pas de revenir ou d'éclater la seconde unité quand on avait besoin avec son duo avec Quickley notamment. Ça a beaucoup manqué. Mais là, pourquoi il a fait ça à Thibodeau? Il a essayé d'éteindre l'incendie, il a essayé de trouver toutes les solutions. Moi, j'aurais fait pareil à sa place. De toute façon,
on aurait tenté la même chose. Au final, ça s'avère un pari pas gagnant, quoi. Bon.
Encore une fois, c'est ce qu'on disait. On manquait de solutions, on manquait de talent. Et en face, en plus, ces salauds, ils ont mis dedans, quoi. Il y a des fois, les gars, ils shootaient, tu te dis n'importe comment, boum, ça rend. Et c'était des hémorragies à un moment donné entre Bogdanovic, Minari, Trae Young. Il y a des moments donnés où tu as eu envie de te coucher à 3h30, alors que tu dis bon, je suis resté pour rien, quoi. Donc après, ils étaient plus forts que nous. Après, ils avaient un petit con en meneur qui nous a fait la misère dans le comportement, dans l'attitude, dans la gestuelle, qui a été bien aidé par les arbitres, même si c'est pas pour ça qu'on a perdu, mais on. On va pas se mentir, c'est une des raisons. Après, je sais que Laurent est fan de Trae Young, mais moi, personnellement, j'ai vraiment du mal.
Laurent est fan de Trae Young. Il a piqué, là, ça y est.
Mon Dieu.
Reprends ton souffle, Laurent, reprends ton souffle.
Bon, y a un truc qui m'a tué dans la série, c'est quand on a appris que le mec, il avait la phobie des oiseaux, quoi. Tu te dis, mais c'est pas possible, quoi. Il a la phobie des oiseaux. Il joue dans quelle équipe? Les Hawks. Ah bah merde alors.
Comment il fait?
Et du coup, ouais, comment il fait, quoi? Comment est-ce qu'il peut le vivre, quoi? Et du coup, même le public du Garden qui s'apprêtait à venir déguisé en oiseau et tout. Non, mais c'était d'une grande n'importe quoi.
Après, je sais qu'il y a eu un débat sur Twitter où, t'avais quelqu'un qui évoquait le fait que, ouais, mais les gars, si vous aviez Trae Young dans votre équipe, vous seriez bien contents. Bah, franchement, pour ma part, alors. Le joueur, il est talentueux, certes. Effectivement, il est impactant aussi. Mais voilà, il y a beaucoup de choses qui me dérangent chez ce joueur-là.
Les cheveux, peut-être.
Il jouerait au Knicks, ce serait vraiment la même chose pour moi. Hein, je vous le dis sincèrement.
Non, mais il a un jeu qui divise. Il a un jeu qui divise.
Forcément. Voilà, exactement. Il fait pas partie des joueurs. Auquel tu vas te rallier comme ça, les yeux fermés. Ce mec-là, oui, techniquement, il est bon, il n'y a rien à dire, il est indiscutable. Tu sens qu'il a l'amour basket, il en veut, mais c'est pas un joueur que tu as envie d'aimer, quoi.
Et même mentalement, il est quand même costaud, le garçon. Moi, je fais pas partie de ses fans non plus, mais pour avoir vécu, on va dire, ce qu'il a pris du Garden, parce que le Garden lui a pas été tendre, il a quand même répondu présent. Donc c'est là-dessus.
Certaine façon,
il faut respecter la force sportive mentale du gars.
Il a porté ses boules, ça c'est clair. Maintenant, chez les Hawks, par exemple, moi, tu vois, un gars qui nous a fait très, très, très mal et dont je respecte, c'est Bogdanovic, tu vois, le gars.
Bogdanovic, il a été énorme.
Et c'est pour moi un factory de chez eux parce que quand on a été à plusieurs fois sur des matchs très serrés où on revenait en s'arrachant, on revenait à un point ou trois points, t'as Bogdanovic dans des angles de 1. Hein, compliqué. Il mettait des shoots assassins et tu dis une fois, deux fois, trois. Les gars, il nous a tués, mais tellement de fois.
Bah sur le match 1 qui se joue sur quelques détails en fin de rencontre, Oui, il y a Trae Young qui met ses lancers, oui, il y a Trae Young qui prend une faute, tout ça, mais il y a Bogdanovic qui va nous foutre un 3 points dans le corner de chez Corner avec, RJ qui défendait dessus. Voilà, ça tue, quoi. C'est des shoots assassins. Et tu sens que voilà, c'est des plus-values dans une équipe. Hein. C'est des joueurs qui ont de l'expérience à haut niveau, même s'il n'avait pas encore goûté au play-off. Mais lui, le haut niveau, il connaît avec l'Euroleague, avec les compétitions internationales. Et pareil, l'ambiance du Garden, ça ne veut pas lui faire plus peur qu'autre chose qu'un Panathinaikos ou que sais-je, qu'il a pu croiser dans sa carrière sur le continent européen, quoi. Donc ouais, ils avaient beaucoup d'armes offensives, ils avaient une tête de fiche qui a répondu présent.
Nous on a clairement pas de talent chez nous d'un niveau d'un Bogda ou d'un truc comme ça, pur, naturel, tu vois ce que je veux dire. Un Bullock, c'est ouais, qui peut faire un match sur 10, oui il va prendre feu. Burke un peu plus régulier, mais c'est quand même pas des talents de dingue. Randle, c'est un joueur all-around, tu vois, il va faire plein de choses, mais c'est pas forcément. Et Barrett était vraiment tout. On n'a pas des talents purs comme ça, qui dans des moments décisifs peuvent prendre feu. Et avec une facilité qui te fait mal. Parce que c'est ça, c'est la facilité à laquelle ils ont pu à chaque fois creuser l'écart. À chaque fois, on s'arrache pour revenir. Et les mecs, t'as l'impression, ils paniquent pas. Troisième quart-temps, ils mettent trois accélérations après un moins 12. Donc ouais, c'est usant pour les gars, tu vois. Ils sont en train de s'arracher. Nous, chaque panier, je me rappelle, je sais plus si c'est le troisième ou quatrième match. Je crois que c'est Rose, il te fait on revient. On était à moins 8 ou moins 10, on revient, on arrive à repasser à plus 1 avec Rose qui te met un 3 points et tout. Enfin, on est genre nous, on célèbre, on a l'impression qu'on a déjà le match. Derrière, Atlanta arrive, boum, il te met 3-4 actions, 3-4-3 points, hop, tu
termines.
On apprend, il y a plus 12. Tu dis attends.
Game over.
Et avant le temps mort, on était à plus 1, ils sont à plus 12 maintenant. Game over.
Mais par contre, Juju, tu parlais tout à l'heure là du comportement des rookies, donc tu parlais d'Obi Toppin, mais de rookies de manière générale, moi je trouve que ils se sont très bien comportés.
Ouais, faut que aussi,
durant cette série, ouais, c'est pas du tout écroulé. Alors après, c'est pas par eux que tu vas faire la bascule en fait pour décrocher la victoire. Mais je les ai trouvés, plutôt corrects. Hein.
Ouais, digne. Et puis, tu sais, non, mais moi, je suis totalement d'accord avec Laurent, parce que quand on parle, bon, ils ont jamais joué les playoffs avant, mais quand tu parles de Knox, de Frank, qui étaient des rookies et tout avant, c'était pas la même, c'est pas le même body language, pas la même mentalité. Là, les gars sont dans une série où tu reviens en playoffs, t'as la pression, le Weir, t'as le Garden et tout. Faut y aller quand même. Hein. Ils ont joué une grosse saison dans des conditions particulières aussi, mais ils ont joué une grosse saison. Alors, ils ont pas été extrêmement transcendants ni au niveau du scoring, ni au niveau du jeu, mais j'ai pas eu un des deux où je me suis dit ah franchement quand il est sur le terrain je regrette tant que ça. Toppin a Quickley a apporté de son dynamisme, ses shoots, son insouciance. Donc les gars, moi on peut leur tirer notre chapeau pour une fois qu'on a des rookies qui se font pas dessus, qui assument le rôle qu'ils doivent avoir et avec une bonne mentalité aussi, tu vois, jamais en baissant la tête et tout. Et quand tu mets en comparaison, RJ, je vais pas lui tomber dessus, mais RJ a vraiment eu un problème sur ses playoffs. On l'a senti vraiment en dessous, quoi, tu vois. Je pense que la pression, il l'a subi un peu plus que les autres. Après, il a pas le même rôle. Mais pour lui, tu vois, le gap était trop important, je crois, cette année.
Ouais, mais c'est ça aussi. Il faut comparer ce qui est comparable parce que Toppin, déjà sur la saison, il a été, il a joué que des petits bouts de match. Hein, donc là, il a joué tout autant. Il s'est bien comporté, il a essayé d'être offensif, bon ok, mais il n'a pas non plus tout transcendé, ok, il fait des tomards, tout ça, ça fait lever les foules, c'est très bien, ça fait plaisir, surtout que c'est un gars de New York. Quickley, oui, on peut pas lui reprocher des choses, mais non, il n'a pas apporté beaucoup en termes de scoring, là où c'est ce qu'on attendait de sa part, donc c'est une année d'apprentissage, mais voilà, c'est pas non plus avec ça qu'on allait pouvoir rivaliser avec Atlanta. C'est...
Non, après, c'est l'esprit aussi, Joanie. C'est-à-dire que t'as quand même une équipe de jeunes qui, quelque part, montre à des mecs un peu plus expérimentés qu'eux qui n'ont pas peur, qui vont aller chercher le truc, quoi. Donc, quand t'as une équipe qui se ramollit, qui manque de confiance, je pense que ça a aidé, hein, dans le deuxième match, hein, un mec comme Randle, par exemple, qui commence à se poser des questions, tu le voyais dans son jeu. Quand tu vois des mecs, des gamins d'arriver derrière et te booster un petit peu et voir que les mecs, malgré tout, la difficulté qu'il y a en face, s'arrachent et se défoncent, toi, t'es censé être leur leader, à part entière, mais
si, voilà, si, t'es au-dessus, t'es voilà,
quelque part tu te reboostes toi aussi, tu te dis attends, si eux ils se défoncent, je me défonce, quoi, je vais pas rester derrière, donc ça aide, même s'ils sont pas performants. C'est vrai que Toppin, il a pas été plus performant sur les playoffs preuve que en saison régulière, hein, il a eu un peu plus de déchets. Je dis Topin, pardon, Quickly. Mais il est resté hargneux, quoi. Il en voulait. Et ça, ouais. Et ça a aidé, ça a énormément aidé. Au niveau de l'équipe, je pense. Et même notre petit Canadien là, qui pour moi et ça reste pour moi un très bon choix, hein, parce que dès le départ, vous savez que je le kiffe et je l'adore, mais c'est pas un mec qui a pas le mental d'acier qui est nécessaire en NBA et surtout en playoff.
Il a pas un killer instinct. C'est pas un tueur, mais c'est un bosseur.
C'est un gentil garçon. Et les gentils garçons, à un moment, il faut leur mettre des tapes dans le cul, quoi. Sinon, voilà. Et ça l'a fait vivre, ça l'a fait bouger un peu. Tu vois, il regardait ses petits frères là, et il s'est dit, ok, c'est bon là, il faut que je me secoue.
Parce que tu vois, je suis d'accord avec toi. Pour moi, RG, c'est un mec. Il est talentueux quand même, mais c'est pas un Luca, un Zion ou quoi que ce soit où il y a un méga talent et la situation tout de suite il apprend, il va passer au-dessus. On l'a vu sur sa première saison, on voit la différence sur sa deuxième saison. Je pense que RD il a besoin de digérer les choses beaucoup plus que certains talents qui eux, bon bah ils c'est comme ça, en moindre truc, tout leur glisse. Luca, Trae Young même un peu plus, tu vois. Voilà. RD c'est un mec qui est intelligent, qui bosse,
c'est un bosseur.
C'est un bosseur. Je pense qu'il avait besoin de prendre ce gap de playoff dans la gueule. C'est passé l'année dernière avec la saison, il l'a pris en pleine gueule. Cette année, il est revenu, tête baissée, il a fait une
super... Il est revenu plus fort.
Il a pris ses playoffs dans la gueule, et bah peut-être, enfin je crois même fortement, il va assimiler, il va analyser ses playoffs, et il va revenir plus fort en playoffs. Lui, c'est pas quelqu'un qui tout de suite va prendre le pas des choses. Par contre, lui, c'est pas quelqu'un qui va se laisser marcher dessus, il a assez de caractère. Mais il a besoin d'analyser et il est un petit peu côté revanchard. Il a été transparent, enfin, il était moyen, très moyen sur ses playoffs. Il le sait, tout le monde le sait. Et bien, l'année prochaine, si on est en playoff, je mets ma main à couper. Enfin, peut-être pas. Mais bon, je parie qu'il m'a.
T'en restes plus qu'une main. On l'a pas dit, mais t'as plus qu'une main.
Mais justement, là, tu fais une belle transition, Juju. Là. Parlons un peu des perspectives de l'été. Là. Donc, est-ce que l'été sera chaud ou pas sur,
L'été sera chaud.
Alors, voilà. Alors, déjà, on va essayer de structurer un peu la perspective. Donc déjà, potentiellement, sur quelle ossature on s'assoit. Et voilà, ça, c'est la première des choses.
Il y a des joueurs qui font l'unanimité. Tu penses à Randall, Barrett. C'est tout.
Après, voilà.
T'as des signatures. Moi, je suis parti de ceux qui veulent que DeRozan re-signe. Mitch et Noël, je ne sais pas s'il faut garder les deux, sincèrement. Et après, dans les autres joueurs à re-signer, je vois bien un Burks selon le tarif.
Ouais, parce que Burks, il va les chercher. Hein.
Voilà, après, t'as Quickly et Topin qui sont dans leur contrat rookie, donc la question se pose pas. Et puis, au niveau évacuation de la chasse d'eau, bon, bah, il y a Payton, merci, au revoir. Franck, je pense qu'il est temps qu'il aille jouer au basket ailleurs. Nox, bon, bah, écoute, il y a d'autres métiers, donc voilà. Et puis le reste de l'équipe. Le reste de l'équipe, Théo Pinson, il peut rester pour apporter le Gatorade, et puis c'est tout.
Non, mais c'est sûr que l'ossature, il y a un gros élément qu'on n'a pas parlé, mais oui, on garde le coach, hein, on est d'accord. Hein.
Oui, on va garder le coach. On va garder le coach.
Accessoirement, c'est le coach de l'année quand même, hein, on l'a pas dit, mais.
Il a tout mérité. Hein. L'amour des fans, coach de l'année. Il a réveillé la passion chez tout le monde. Donc ouais, non, il est indiscutable. Après sa méthode, il faudra qu'il l'ajuste quand même. Hein.
Ouais, mais il l'ajustera en fonction des talents qu'il aura sous la main. Moi,
c'est ce que j'allais dire, c'est qu'il faut voir ce qui va se passer là pendant la période d'été là, qui vont libérer, qui vont récupérer. Mais je pense que c'est un coach intelligent. Il sait de quel type de joueur il a besoin aujourd'hui. Là, clairement. Il lui faut un solide renfort. L'équipe qu'il a, c'est une équipe, on va dire, inexpérimentée. Il lui faut des gars d'expérience. L'ambition qu'il a, avec les moyens qu'il a, c'est pas suffisant. Après, il faut vraiment faut être sans pitié là. On a montré qu'on était capable d'aller en playoff. On a montré qu'on pouvait aller un peu plus loin. En tout cas, on veut aller un peu plus loin. Là, il faudra être sans pitié cet été. Hein. Toutes les discussions sur notre petit Frenchie, on doit plus les avoir, quoi. Je veux dire, je suis désolé. Franck, on l'aime bien, on est français. Bleu, blanc, rouge, ok. Mais là, il faut être clair. Le mec, il est pas fait pour cette équipe-là.
Il fait pas partie des plans de l'équipe, il est pas dans les plans.
Mais de toute façon, c'est comment pouvoir entourer Randle de manière beaucoup plus efficace.
Un meneur.
Voilà.
Mais il faut un meneur, mais il faut un shooter aussi.
Non, pour Léon Rose, elle est décisive cette saison, parce que l'année dernière, il avait du crédit. On se disait, bon, c'est très compliqué et tout. Là, cette année, il y a une réussite qui n'était pas prévue. Maintenant, mon gars, Thibodeau a fait plus que son taf. Maintenant, c'est à toi d'aller chercher les pièces et de montrer que tu es intelligent et que tu as du réseau. Tu as été vendu comme un mec de réseau. Je critique pas, mais les coups aujourd'hui n'ont pas été fantastiques. Et plus de réussite que prévu, j'en suis certain que personne n'avait prévu au front office qu'on allait terminer quatrième ou quoi que ce soit. Maintenant, il faut aller chercher du réseau.
Personne n'a prévu les playoffs, clairement.
Voilà, maintenant, t'as ça, t'as la salle. Les fans ont fait leur taf dans la salle en montrant qu'il y avait une ambiance de dingue. On nous reprochait et tout. On n'a pas entendu Dolan. Tout le monde disait oui, avec Dolan, il a fait zéro. Il n'y a eu rien cette année qui est sortie. Donc, ok. Thibodeau a fait du taf, même si sur certains trucs, il doit améliorer un petit peu sa relation. En tout cas, ses rotations pour passer pour cramer le monde. Mais Thibodeau a fait du taf. Il est référencé. New York fait encore de nouveau kiffer. T'as une intersaison où t'auras pas des méga, méga, méga stars, mais t'as quand même du Randle, du Barrett qui sont là, qui auront peut-être envie d'être rejoints par des joueurs. Donc à un moment donné, t'y vas et tu fais des coups. Et t'as du cap space. T'as du cap space à dépenser. Donc à un moment donné.
Et t'as des tours de draft en pas gagné.
Et t'as des tours de draft.
La différence des années précédentes, c'est que là, New York devient enfin attractif en fait.
T'es sexy. Là, t'as jamais été aussi sexy.
Si là maintenant, après une saison comme t'as fait, t'es pas attractif. Je sais pas ce qu'il faut pour être attractif, quoi. Non, franchement, oui, c'est vraiment. Là, l'été va être très, très structurant parce que ça va aussi dévoiler un petit peu les plans d'Enix. La saison dernière, ok, on installe un coach, on voit jusqu'où il peut emmener l'équipe, est-ce qu'on gardait ou pas Randle. Randle se révèle et fait une saison hors du commun. Donc, ils ont amené l'Enix à un niveau inespéré. Le plus dur maintenant, c'est de confirmer. Est-ce qu'on reconduit les mêmes et on essaie d'aller plus loin? Ça, voilà, on a vu où était le plafond de l'équipe. Ça pourra pas faire beaucoup de tours en play-off, tout ça. Sans parler d'atteindre des finales. Mais ne serait-ce que passer un tour, on n'a pas l'effectif, la densité d'effectifs pour. Par contre, en montrant que New York, c'est sympa, que ça joue, qu'il peut y avoir de l'ambition, ouais, il y a peut-être moyen de faire des moves intéressants. La free agency, elle est pas folle. Hein. Y a différents noms qui circulent, mais voilà, toujours à prendre avec des pincettes. Moi, je pense qu'il y a aussi les 4 picks de draft qu'on a. C'est beaucoup trop pour un effectif comme on est, quoi. On n'a pas besoin de rajeunir à outrance l'effectif. Ça doit servir en fait de monnaie d'échange pour des équipes qui ont besoin de pics, quitte à récupérer peut-être un contrat entre guillemets toxique. Il va falloir prendre des risques maintenant pour faire passer un cap à l'équipe, quoi.
Ouais, je suis d'accord.
Ah, c'est là où on va voir vraiment l'ambition de l'équipe. Si on fait des petites signatures à une ou deux saisons parce qu'on ne sait pas trop, c'est qu'on n'est pas encore prêt. Si on investit sur un joueur entre guillemets jeune, sur un contrat de 5 ans, voilà, ça va vraiment donner le ton de l'ambition pour les prochaines saisons. Hein.
Ouais, d'autant plus que les contrats d'un 12 ans, d'un ou deux ans, c'est ce qu'on a fait déjà pour purifier tout l'air post.
On a fait ça. Tout à fait, ça permet d'assainir les finances et de retrouver des marges de manœuvre.
Et le seul joueur sur qui on a fait un pari à long terme, c'est Randle et Lou Laurent cette année. Donc,
et Laurent cette année, c'est un pari mesuré parce qu'on lui a pas donné la blinde. Et tu sais que moi, je vais même te dire, pour moi, on est au top de ce qu'on pourrait être sexy sur le marché parce que l'année prochaine, selon ce que tu as fait cet été, si tu fais pas la même saison et que tu as dépensé un peu de cap space, tu es peut-être plus aussi attractif que là. Là, tu es attractif comme tu vas peut-être l'être rarement. Tu as des tours de draft, tu as le fil. T'as une équipe qui est quatrième, qui a fait un premier tour. T'as une ambiance, t'as du cap space. C'est très, très. Là, t'as quasiment tout. T'as toutes les planètes qui sont alignées.
Il manque juste une grosse free agency, en fait. Hein,
c'est mais
un
bien
peu
sûr, mais après...
on arrive un peu en retard sur.
Mais au moins, bon, on va parler de joueurs. Moi, tu vois, après, je vous laisse terminer là-dessus. Mais moi, il y a un joueur, quand j'étais pas fan, et j'ai réfléchi, j'en ai parlé l'autre jour avec Joe, c'est Chris Paul. Putain, il va coûter cher, mais quand tu vois ce qu'il fait comme taf, il va coûter mais tu ramènes Chris Paul. Là, je sais que tu lui payes une année trop, parce qu'il sera peut-être un peu moins fort, un peu cramé. Mais si tu le payes 3 ans avec les 2 ans, avec la science qu'il a, le jeu qu'il a, ce qu'il apporte, avec lui, Barrett, Randle, tu gardes D-Rose, tu te prends l'équivalent d'un Burks ou quoi que ce soit, et tu arrives à te choper un pivot, tu as Quickley, Topin, ton équipe, elle step up direct. Alors, il va coûter cher, mais tu as la
thune. On l'a vu partout où il est passé, il fait changer de catégorie les équipes. Hein. Donc,
mais c'est quoi, parce que quand je vois des Kyle Lowry, non, ça, tout ça, ça te sert à rien. C'est de l'argent que tu vas dépenser. Ça va pas te faire step-up. Chris Paul, ouais. Je suis pas fan du joueur à la base, mais franchement, faut le respecter. Ce qu'il
l'efficacité, c'est l'efficacité, ça.
Qu'est-ce que tu payes avec Chris Paul? Tu sais que tu seras en play-off et tu sais que ton équipe, il va te l'amener à un autre degré et qu'il va apprendre à des mecs comme Barrett, à des mecs comme Randle. Il va leur enlever une pression. Il va nous apporter. Il va en tirer de la quintessence. Et Mitch Robinson, excuse-moi. Il est All-Star parce que DeAndre Jordan, il a rien de plus que Mitch Robinson.
D'accord.
Mais tu sais à faire les calculs d'épicier là comme ça, au bout d'un moment, bah tu te dis allez c'est bon, là t'as vraiment toute la flexibilité nécessaire
pour pouvoir faire un gros move. Envoie les
j'en voudrais même pas au bord d'Enix de faire un gros move et de se planter, mais qu'on prenne ce risque-là.
Non, il faut bouger.
Voilà, ouais. Tout à fait.
Je suis d'accord, Laurent. Autant les années précédentes, on pouvait se poser des questions sur justement ces petits contrats là, machin. Tu te dis, mais les mecs, ils veulent aller où comme ça? Mais là, cette année, tu prends un gros risque, personne te dira rien, quoi. C'est parce que c'est le moment. C'est le moment où justement.
Faut afficher l'ambition.
Et ouais, t'affiches tes ambitions. T'as mis en place une structure, t'as mis en place un jeu. Les mecs, ils sont prêts à se défoncer aujourd'hui. T'as un regard différent sur l'équipe. Si tu joues pas là-dessus aujourd'hui, comprendra pas que tu prennes pas ce risque, que tu fasses pas venir quelqu'un qui peut justement te booster tout ça. On comprendra pas.
Bah, ça serait un échec. Tu passeras pour petit bras et du coup, tout le monde se dira oh, bah, les Knicks là. Et autant les autres années, quand les gens disaient ah, les Knicks, vous êtes foirés. Moi, je trouvais que c'était des réflexions de merde parce qu'en fait, il y avait une lecture qui était plus profonde en se disant oui, mais là, c'était pas, on pouvait pas, on n'était pas bien structuré pour faire quoi, je comprenais les décisions. Mais là, t'as tout. Si jamais tu restes, comme disait Abdou, si tu restes sur des petits contrats encore de merde de 1 an, 2 ans de joueurs moyens de deuxième voire troisième catégorie, ta politique, elle est pas logique. Non, t'as du cap space.
Non, ça sera pas lisible.
Ça sera un échec. Ça voudra dire que t'as pas réussi.
Incohérent.
Ou alors, ça voudra dire qu'on a toujours un vrai problème et qu'on n'a pas réussi. Là, ça serait plus inquiétant d'ailleurs. Ça serait plus profond, je veux dire, merde, là, il y a peut-être un souci dans la ligue. Que je pense pas aujourd'hui, parce que durant ces playoffs, t'as quand même vu des tweets de joueurs NBA ou d'anciens joueurs NBA qui parlaient de l'ambiance du Garden, qui disaient, ouais, franchement, ça reste de ouf et tout. Les Knicks ont été loués par tout le monde.
Même LeBron.
LeBron, il a regretté, je crois, au fond de son cœur.
Ouais. Il va parler de la ville même, il y a une autre équipe qui paraît qu'ils jouent pas très loin. Ils sont en troisième page et ils sont obligés de faire des gratuités pour avoir des pour faire venir les spectateurs. Et nous, c'est sold out. Première page, et t'as Randle qui a un contrat à 12 millions, qui est en première page, alors que t'as des contrats de l'autre côté du pont à 30 millions qui sont en troisième page. T'imagines
ouais, quand même. T'exagères un peu. Randle, il est pas à 12, il est à 19. Mais
Ouais, c'est pareil.
On a compris l'idée.
Dans le délire des contrats flexibles, il va falloir aussi structurer cette seconde unit qui a été tellement efficace cette année. Et je pense qu'il y a vraiment des joueurs sur qui il va falloir peut-être se montrer un peu plus généreux. Voilà, donc on a évoqué le cas de D-Rose. Ouais. On a évoqué le cas de Burks qui, quand il est au Cannes, les gars, il a quand même réussi à faire une saison plus que potable.
Je sais pas, en fait, sur Burks, effectivement, il a apporté, on l'a vu,
Noël,
dans la saison.
La question, on se dit sur Noël.
Ouais.
C'est ce que je te disais. Tash Gibson,
le tonton. Regarde ce qu'il a fait en playoff.
Noël a fait une saison de dingue, mais Noël Robinson, vous voulez repartir avec la même charnière parce qu'ils ont tous les deux, à un moment, il faut falloir parler tarot pour les deux. Qu'est-ce que tu fais? Et moi, tu vois, Bullock, je suis pas pour le re-signer, ou alors si t'es en fin de free agency, que bon, il est sur le
pas mieux, quoi.
Voilà, tu dis, bon, on te refait le même salaire et tout. Burks, je suis un peu d'accord avec Joe, il est très bon, mais est-ce que tu veux, il va pas demander plus, justement, et croquer, et est-ce que à ce moment-là, tu le donnes ou pas?
Évidemment, les gars.
Et est-ce que tu le donnes ou pas, ou est-ce que pour le même tarot, t'as autre chose? Je ne sais pas, je suis pas sur le marché. Mais moi, tu vois, l'intérieur, je pense que ça va être important, c'est que Noël, je le kiffe, il a fait une bonne saison, j'en ai parlé dans l'attitude et tout. S'il est plus gourmand, qu'est-ce que tu fais?
Il va falloir faire des choix, en fait. Il va falloir faire des choix, donc on l'a dit.
Mitch Noël, je suis pas sûr que ça te permette réellement de passer un cap les deux.
C'est sûr que si on avait eu un peu cette densité avec Robinson pour s'opposer à Capella, voilà, on s'en serait mieux sorti, ça c'est certain. Après, bah, c'est dommage, Robinson, il a pas pu avoir cette expérience playoff, donc il va revenir type retour de blessure. Et c'est pareil, lui, il arrive sur une fin de contrat. y a des interrogations autour de Robinson sur la stabilité, on va dire, émotionnelle du garçon, quoi. Est-ce que c'est pas quelqu'un qui va nous coûter cher et qui va être injury prone, qui va se traîner des blessures toute sa carrière? Est-ce que le plafond, il est très très haut? Est-ce qu'il vaudrait mieux pas, entre guillemets, s'en servir de monnaie d'échange maintenant pour récupérer je sais pas qui? Moi, j'ai une interrogation, j'ai pas encore été convaincu par Robinson. Par contre, je sais qu'il faut qu'on renforce le 5, quoi. Et est-ce qu'il vaut mieux pas garder un Noël, un tarif à 6, 7, 8 millions encore la saison sur 2-3 saisons, qui est peut-être léger physiquement par rapport à d'autres pivots, mais l'associer avec un pivot d'un autre profil, quoi. Parce que là, on avait quand même un petit peu une histoire de frères siamois entre les deux, c'est quasiment le même profil. Alors c'est bien parce que ça a permis de compenser l'absence de Mitch qu'on n'aurait pas pu prévoir, mais pour aller loin ou pour passer au moins un tour, est-ce qu'il faudrait pas plutôt varier nos armes à l'intérieur, quoi.
Ouais, mais je pense pas que la politique... Je pense pas que la politique de New York soit de faire l'impasse sur Mitch aujourd'hui, parce qu'il a une...
Bah, c'est compliqué, parce que t'envoies un message qui est de dire bah, on prend des joueurs qu'on garde pas, quoi. Donc,
ouais, et puis il est bien aimé dans la phase, il y a un petit truc, on l'a pris en deuxième tour, c'est une réussite.
Donc est-ce que ton pivot d'avenir, on va dire les 5 prochaines saisons, c'est Mitchell Robinson? Bon, limite, pourquoi pas, tu lui mets un contrat plus ou moins conséquent, et puis si ça fait pas l'affaire dans quelques années, voilà, tu trades. Pourquoi pas? Mais aujourd'hui, on va dire qu'il a une cote marchande, il a encore un potentiel qui semble pas exploré, pas complètement dévoilé. Soit il confirme, soit au contraire, il stagne, voire au pire, il régresse, quoi. Donc il va y avoir un choix, un pari à faire sur lui.
Et vous, là, ça serait... Vous voudriez qui en signature cet été dans le faisable, hein, bien sûr?
Moi, il me faut un meneur.
Un meneur. un meneur et une menace extérieure beaucoup plus fiable, en fait, et même référence. Voilà.
Et si on vous demande des noms, c'est qui? Des noms.
Il y a des meneurs qui... Alors, toi, tu as parlé tout à l'heure, Julien, de Chris Paul. Voilà, ce qui se murmure, ce qui se dit, c'est qu'il va décliner sa player option à 44 millions.
Il peut rester à Phoenix, surtout que Phoenix, là, moi, je pensais qu'il allait pas rester, surtout que Phoenix, c'est en train de taper Denver, alors on enregistre.
Phoenix est en train de faire de très beaux playoffs, à voir jusqu'où ils vont.
Au début, je pensais qu'il déclinait pour aller sur un gros marché, type Lakers, pourquoi pas les Knicks, même si, bon, j'en rêve, mais je suis pas sûr. Là, je me dis, si tout roule pour lui, je sais pas.
Est-ce qu'il finit sa carrière aux Suns avec un gros contrat, genre 100 millions de dollars sur 3, voire 4 saisons? Parce qu'en gros, c'est ça qu'il veut. Il vise un gros contrat sur la durée, quitte à ce qu'il ne le finisse pas, mais qu'il prenne son argent. Voilà, donc est-ce qu'on s'aligne sur ça? On fait une surenchère? Est-ce que cette surenchère, Phoenix... va pas la contrecarrer, je sais pas. Franchement, ils auraient tort de renoncer à Chris Paul avec la saison qu'il fait et là où il emmène aujourd'hui les Suns. Après, il y a d'autres joueurs entre guillemets qui pourraient se retrouver sur le marché. Il y a la situation à Boston qui a l'air un petit peu particulière
avec Kemba Walker, Fournier.
Par contre, Kemba Walker, ça coûte cher et ça a pas montré forcément de choses qui rassurent. Il y a la situation aux Rockets de John Wall, qui, pareil, gros contrat et une saison mi-figue mi-raisin. Ok, il revient après deux saisons d'absence. Il a montré des choses, mais il est encore un peu blessé. Donc, est-ce qu'il faut investir sur un mec comme ça? C'est le genre de risque qu'en fait qu'il va falloir faire, quoi. On va pas prendre... Enfin, moi, j'ai du mal à concevoir une saison prochaine avec Derrick Rose en meneur titulaire, quoi.
Ah, non, mais c'est compliqué.
Derrick Rose, c'est même pas garanti qu'on garde. Il y a l'affect avec Tom Thibodeau. Il va peut-être demander un petit peu de dollars. Mais il va peut-être aussi avoir d'autres équipes qui vont le draguer, quoi.
Ouais, mais lui, il a envie de rester. Il est bien à New York. Je pense que ça va se passer.
Ouais, mais entre... Tu vois, entre... Est-ce que tu restes avec tonton Thibodeau à New York pendant encore 2-3 saisons? Par contre, on est d'accord, Derrick, on jouera pas le titre. Ou est-ce que t'as LeBron qui t'appelle sur l'autre ligne?
Mais attends, LeBron, c'est pas garanti qu'il gagne le titre. Il l'a montré cette année. LeBron, c'est plus le même LeBron. LeBron, c'est plus juste avec LeBron, tu vois. C'est plus ça maintenant. Et je suis désolé.
LeBron, il est en fin de carrière, les mecs, hein. Faut pas l'oublier, hein.
Une saison charnière, mon gars. Et tu vois bien qu'à Brooklyn, les gars, ils sont au top de leur carrière, notamment et tout. Faut assumer. Mais c'est les jeunes qui arrivent. T'as la génération des Jokic et d'autres qui prennent le dessus. Ouais. LeBron, ça va être très compliqué. L'année prochaine, c'est moins garanti qu'avec LeBron, t'es en finale. Non, c'est terminé, cette histoire.
Ah ouais, je pense que c'est fini, hein.
Je te garantis pas qu'ils gagnent le titre, mais en tout cas, ça sera l'ambition qu'ils auront. Ils vont s'afficher, on va passer un tour de play-off, mais on veut gagner le titre. On veut revenir.
Ouais, je suis assez d'accord avec Julien. Moi, je vois pas des mecs comme LeBron aujourd'hui appeler des joueurs en disant je vais t'emmener en finale, quoi. Non, et aucun joueur sensé ne va le suivre. Je veux dire, il est.
Cette saison, ça a montré que cette théorie-là va prendre de l'aile en termes de crédibilité sur LeBron et
carrément.
Dans sa propension à pouvoir mener une équipe très très loin, quoi.
Carrément, carrément.
Mais bien sûr, j'ai pas dit qu'il allait gagner le titre l'année prochaine.
Non, mais même aller loin dans les phases finales. Techniquement, physiquement, il peut pas. Je veux dire, c'est pas les bandes de 30 ans là, on parle d'un mec.
Les Lakers, c'est le bordel. C'est quoi, ils ont un roster qui est fini, tu rajoutes une pièce et tu te dis, bon, bah, tu vas être 7e, 8e joueur. On est là, ils ont beaucoup de taf aussi. La priorité, donc c'est pour ça que je pense que Derrick Rose, il veut rester. Thibodeau veut le garder, le public le kiffe. Enfin, moi, je me dis, il y a quand même de grandes chances que lui il reste, tu vois. Et ça serait bien qu'il reste dans un rôle de 6e, 7e joueur, tu vois.
Exactement.
Mais donc, ça veut dire qu'il faut qu'on trouve un meneur. Titulaire.
Il faut un meneur. Et les meneurs que tu as cités, à part Chris Paul, franchement, le problème qu'il y a, c'est qu'OK, il faut prendre des risques, mais il y a tellement de risques sur le physique, là. Enfin, si tu parles de Kyle-Lowry, Kemba Walker et... c'est qui le dernier ?
John Wall.
Et Damien Lillard.
Et de ces trois signatures, mon gars, tu te réveilles le matin, est-ce que franchement, tu es heureux ? Tu te dis OK...
Tu dis, ils ont tenté un coup. Est-ce que ça va payer ? Eh ben, c'est l'avenir qui va le dire.
Mais tu te dis pas, et je te dis même pas que ça va lui permettre de faire un step-up. Tu vois, je me dis même pas, ouais, ça va être un step-up, il va peut-être aider à.
Quand même. Si on passe de Peyton titulaire avec D-Rose en backup ou avec un John Wall,
Lori, pour moi, il est rincé. Il est rincé cette année. Il a toujours été physiquement difficile. Il a réussi par d'autres saisons plus jeunes à compenser son physique parce qu'il a pas une super hygiène de vie, qu'il a un peu tendance à. Voilà. Cette année, il est rincé de chez rincé. C'est la mauvaise bonne idée. Walker, c'est pas le même profil. Je sais pas du tout ce qu'il vaut, mais à Boston, ça a quand même été.
C'est une saison un peu difficile à jauger pour lui.
Ce qu'il se dit, c'est qu'il a plus de genoux. Mais...
Voilà, bah, super. Et John Wall, il a montré des brides intéressants cette saison à Houston. J'ai pas assez suivi, mais quand même, il sort de trois saisons, deux quasiment out entières.
Oui, et puis il reste l'équivalent de 100 millions sur encore deux saisons. Donc on est d'accord.
Ouais, donc,
mais c'est des prises de risque. Hein.
Mais tu vois, c'est des prises de risque qui font vraiment pencher la balance. On a quand même plus de chances que ça soit de la merde que de la réussite.
À côté de ça, le potentiel gros contrat qui arrive à New York n'aura pas cette responsabilité sur les épaules à porter, à savoir faut remettre l'équipe en play-off. Donc là, l'équipe a déjà quand même une certaine dans le jeu et dans leur potentiel, dans ce qu'ils peuvent apporter, notamment défensivement. Et là, le fait de pouvoir prendre ce risque cette année, le joueur qui débarque n'aura pas cette responsabilité-là. Et c'est vrai que le poids des médias est tellement lourd, on en parle toute la saison, le poids des médias est tellement lourd sur les joueurs, notamment à New York, que là, franchement, il n'y a pas meilleure opportunité que de pouvoir débouler maintenant. Tu déboules maintenant, tu arrives comme la pièce ajoutée.
C'est un meneur de qualité, tu te dis que c'est maintenant, quoi. C'est maintenant parce que cette équipe-là, elle va t'attendre. Déjà un peu comme le Messi.
Comme le Messi, non. Pour moi, c'est pas comme le Messi. C'est l'option numéro 1, ça va être toujours Randall.
Je suis pas sûr que l'option va rester sur Randall. Je suis pas sûr. Randall. Ça dépend qui on signe. Si tu signes une grosse structure demain, Randall il va passer en deuxième plan rapidement. Parce que tout va reposer sur ce gars-là. Parce qu'on va attendre de lui justement qu'il soit les épaules sur lesquelles Randall puisse se reposer, quoi. Tu vois, parce que Randall il a besoin de ça. Il a besoin de ça aujourd'hui.
Parce qu'on a proposé, il y en a aucun qui peut prendre ce rôle-là parce qu'au final, Wall, je sais pas, Lori, je l'évacue tout de suite, mais Walker, c'est pas un mec, il l'a jamais réellement fait, il l'a fait un tout petit peu à Charlotte, mais c'était quand même pas du tout la même pression, pas du tout les mêmes attentes.
C'était lui l'option numéro 1 pour le coup.
Oui, mais c'était à Charlotte dans un contexte bien différent. Là, t'es entouré de Randall, Barrett. Moi, aujourd'hui, tu me dis, à la place de Randall, tu me dis Walker, ça va être ton gars sûr, ton option numéro 1.
Non,
mon gars, il prend le casier au bout du couloir et il m'apporte le Gatorade. Tu vois, c'est terminé.
Pour moi, c'est pas une option numéro 1 qu'on cherche cet été. L'option 1-2, c'est Barrett et Randall, enfin Randall en 1 et Barrett en 2, et il faut un troisième larron, un gars d'expérience, un gars qui peut porter le ballon, qui peut shooter, qui peut défendre accessoirement, parce que c'est ça aussi qu'on cherche à New York. Mais voilà, tu viens compléter un effectif. Par contre, il te faut un mec qui soit titulaire indiscutable. Il va coûter cher. Mais je vois pas. Enfin, j'aurais du mal à concevoir qu'on aille chercher un meneur titulaire entre guillemets de seconde zone. D'ailleurs, j'ai même pas de nom qui me vienne comme ça à l'esprit. Après, il y avait aussi l'option Lonzo Ball par rapport à sa situation au Pels, à la Nouvelle-Orléans, où là, lui chercherait aussi un contrat plus important, on va dire, en monnaie et en durée. Mais c'est pas la même, c'est pas la même recherche. Enfin, c'est, si tu rajoutes Lonzo Ball à notre trio, on va dire, tu complètes avec le duo Randle et Barrett, c'est pas la même attente que t'as. Aujourd'hui, Lonzo Ball, on sait pas ce que ça vaut en playoff. On l'a jamais vu dans ce genre de situation, quoi. Donc, là où des Kyle Lowry, peut-être vieillissant, peut-être en surpoids, peut-être tout ce qu'on veut, on avait aussi des doutes sur D-Rose, hein, quand il est revenu. On s'est dit, bon, qu'est-ce que ça va donner.
Mais pas la même, enfin, physiquement.
C'est pas les mêmes joueurs, hein. Il y en a un qui a été MVP de régulière et l'autre, pas non plus. Mais voilà, en tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'il faut pas qu'on enterre non plus les joueurs trop vite. C'est pas parce qu'ils sortent d'un contexte heureux dans leur équipe actuelle qu'ils seront tout aussi déclinants Onyx. Il n'y a pas de garantie, on va dire, aujourd'hui dans la ligue. Ça serait trop beau sinon. Mais voilà, il va falloir faire des prises de risque. Il va pas falloir aller chercher des petits noms parce qu'on joue petit bras. Il va falloir se servir des assets, des picks de draft.
Il y a un nom qui revient, c'est Kelly Oubre. Moi, quand je vois ça, voilà.
Je suis pas rassuré non plus. Ouais. Ouais, d'accord.
Kelly Oubre, pour une solution à l'extérieur, mon gars, il a vendu à Golden State.
Ouais,
t'as vu les mixtapes où Stephen Curry le regardait. je pense que quand il est passé de comment il s'appelle Thompson à Oubre, ça a dû lui faire tout drôle cette saison avec Curry. Oubre, franchement, c'est pareil, c'est pas un mauvais joueur. Attention, il sait faire pas mal de choses. Il a fait une saison correcte à Phoenix.
J'ai du mal à le voir, moi, dans le système Thibodeau.
J'ai du mal à le voir dans le système et j'ai du mal à voir ce qu'il va nous apporter, en fait. J'ai du mal à voir ce que, sur le terrain, comment ça peut fitter avec un Randle, un Barrett, tu vois. C'est des noms où je me dis, est-ce que c'est des noms d'agents qui sortent pour se faire mousser? Ou est-ce que c'est des vrais cibles new-yorkais?
Il y a toujours ça, hein. Il y a je sais pas combien de joueurs, il y a plus de 500 joueurs dans la ligue, ils sont quasiment tous maqués avec les Knicks à un moment donné de la saison.
Ah mais ça c'est sûr, en termes de rumeurs, là les gars, de toute façon on va alimenter toutes les rubriques encore cet été, d'autant plus que cette année on évoquait le fait que cette hype revienne du côté de New York et que de nouveau la lumière soit faite sur notre franchise. Là, il y a beaucoup de noms qui vont circuler. Les agents vont se donner à cœur joie pour pouvoir exposer leurs clients.
Donc, oui, et puis pour faire monter les enchères, tout simplement. Si tu dis que t'as les Knicks qui sont intéressés, voilà.
Vous êtes intéressés, vous allez mettre le prix, quoi.
On a de la thune, hein, faut pas oublier. Hein. Donc nous, on peut
s'amuser. Justement, c'est ce qu'on va voir. C'est ce qu'on va voir, c'est qu'on a de la thune, mais est-ce qu'on va intelligemment l'utiliser, quoi. C'est là, l'attente, elle est forte à ce niveau-là. Ils ont les moyens, mais est-ce qu'ils vont les mettre?
Est-ce qu'ils vont y réussir cette fois-ci,
ouais. Moi, je n'y crois pas trop, mais il y a la rumeur de Damian Lillard. Bon, personnellement, j'y crois pas du tout. Maintenant, le joueur vient, il n'y a pas de souci.
Non, mais tous les jours, je l'accueille. Je donne le max du max à Lillard et je vis
le max du max. J'ai réfléchi à tant de joueurs dans la balance, mais je pense que personne n'est...
Non, mais après, voilà, accessoirement, il n'est pas officiellement sur le marché, même si la situation aux Blazers commence à peut-être un peu le taper sur le système, parce qu'il est loyal vis-à-vis de sa franchise, mais il ne gagne pas. Donc voilà, s'il y a un joueur à partir plutôt des Blazers dans le duo, dans le backcourt, ça sera plutôt CJ McCollum que Lillard.
Ouais, man.
Mais ouais. Bah, c'est pareil, tu vois, ce type de joueur-là,
ah, moi, j'adore,
que tu prends Brewster?
Ah, mais bien sûr, je le prends, évidemment.
McCollum.
Ah, bah oui.
Ouais, on parlait pas d'hier.
Après, je vais pas mentir, ça dépend de Caro.
Après, c'est sur le côté défensif où là, effectivement, tu peux te poser certaines questions. Est-ce que ça va fitter en termes de mentalité? Parce qu'après, il y a aussi une mentalité qui a été irréprochable cette année, c'est le fait que l'équipe soit totalement cohérente en termes d'adhésion dans le travail, en fait.
Ouais, ouais, il faudra qu'il y ait un joueur qui rentre dans le moule, quoi.
Il n'y a pas eu de passe droit cette année. Même Randle, potentiellement notre franchise player, a été plus qu'irréprochable sur ce sujet-là. Donc, quand tu fais venir de potentiels starlets, ça, par contre, je pense que Thibodeau aura peut-être son mot à dire là-dessus, en fait.
Ah, il faut qu'il y ait des joueurs qui soient compatibles. Thibodeau, on est d'accord, qu'il soit,
voilà.
Qu'il ait envie de se donner, se sacrifier, on va dire, un peu en défense. Mais on l'a vu, la défense était collective, donc c'est vrai que quand t'as tout le groupe qui défend, voilà, à part si tu fais vraiment ta starlette et que tu... Mais ça marchera pas, donc effectivement, là, le recrutement sera important là-dessus. De pas faire d'erreur de casting. Finalement, on a pas de certitude. On a envie que les Knicks, cette fois-ci, fassent vraiment de beaux mouvements dans l'intersaison. Prennent des risques. Ouais, à un moment, t'as les marges de manœuvre, serre-toi-en, quoi. Je veux dire, le cap space, ça sert à rien quand tu t'en sers pas. Donc ça te donne une flexibilité, mais si cette flexibilité d'année en année tu l'as et que tu ne t'en sers pas, je sais pas quelle free agency on peut attendre autrement.
Et t'as envie d'avoir un peu de créativité, tu sais, je sais pas, la draft, que Léon Rose se dise, bah moi j'ai filé tous mes tours, mais en même temps j'ai fait ce trade, ça m'a permis d'avoir tel joueur auquel on n'aurait pas imaginé, pensé, parce qu'il a été au courant que le mec voulait se barrer d'une franchise et tout. T'as aussi envie d'avoir un front office qui fait des petits coups, parce que les dernières saisons on a été dans l'attente, pour des raisons bien définies. Mais on a toujours été attentiste à la situation, à la situation, à la situation. Là, tu te dis, les gars, vous pouvez vous faire plaisir. Tu peux te faire plaisir, tu peux tenter des choses, vas-y, va au bout. On nous a vendu Léon Rose comme un mec agent ancien. Enfin, c'est pas comme un mec, il était ancien agent de joueur.
Ah, tu doutes encore, toi.
Bah, moi, aujourd'hui, je doute encore parce que je pense qu'il a eu énormément. Enfin, la chatte qu'on a eue, c'est que tout s'est goupillé cette saison, mais qu'au final, il n'y a aucun coup de fou. Chercher Thibodeau, c'est pas la révolution de l'année. Aller chercher Burks et D-Rose, c'est pas la révolution de l'année. Donc, pour l'instant, il a fait que des coups sûrs, tu vois. C'est pas. Enfin, voilà, c'est pas. Il m'a pas fait un coup où je me suis dit, ah, le mec, franchement, il n'y a que Quickley. Mais Quickley, je pense que c'est même pas lui, parce que son choix, c'est Topin. Quickley, c'est plutôt les assistants qui étaient avec lui à Kentucky. Donc aujourd'hui, Léon Rose, j'ai rien contre lui, mais aujourd'hui, je me dis, tiens, c'est maintenant, vas-y, gars.
Montre-nous.
Non, mais voilà, montre-nous pourquoi on t'a fait venir et fais-nous kiffer, parce qu'aujourd'hui, j'ai pas d'a priori négatif, mais je peux pas te dire qu'il est formidable. Et aujourd'hui, tu vois, je me dis, il récolte beaucoup de louanges, mais pour moi, les louanges aujourd'hui, elles sont essentiellement à Thibodeau.
Ouais, il a été impactant. Il a été impactant, Thibodeau. Et surtout, il a été rassuré sur le fait que le front office ne fasse pas de panic move durant l'intersaison aussi. Hein. Donc,
surtout ça. Ouais, parce que les moves de l'intersaison des autres équipes n'ont pas été spécialement payants non plus. Donc, finalement.
Voilà, donc je pense qu'il y a une bonne entente quoi, entre le board et le coach. Et justement, là, on parlait de potentiels coups, on parlait de meneurs, mais il y a un joueur dont on n'a pas du tout parler parce que moi, déjà personnellement je l'ai pas vu. Bah oui, bah Lucas Vildoza, les gars.
Mais bien sûr, il faut qu'on en revienne. Est-ce que finalement le nice move on l'a pas déjà fait quoi, en fait quoi.
On a une star quand même de la Liga qui déboule.
Je l'ai vu jouer en Euroleague cette saison 4-5 fois.
Allez, vas-y.
Et le mec.
Vas-y, vends-nous du rêve.
Non, mais non, c'est, attention, je sais pas, le gap physique et tout en NBA c'est toujours pareil quand tu viens de l'Euroleague. Tu vois, le petit Facundo qui est à. À Denver, c'est un joueur exceptionnel à Madrid. Il est bon à Denver, mais il n'est pas non plus du niveau qu'il avait à Madrid. Donc, faut pas s'enflammer. Par contre, c'est un joueur qui a une grinta et du vice. Et c'est un joueur qui est hyper créatif. C'est-à-dire que physiquement, bon, pour un Européen, pour un joueur qui joue en Europe, il est quand même assez fit. Par contre, il est vraiment très créatif, très malin sur des petits moves où il met dans le dos il met dans le vent son adversaire. Il arrive à être très vicieux, à choper pas mal de ballons en défense. C'est un gars qu'on n'a pas du tout ce genre de profil. Et ça peut être intéressant. Après, encore une fois, le gap avec la NBA est important souvent, donc faut pas non plus en attendre trop pour moi, tu vois.
Non, mais du coup, c'est quand même un complément dans l'effectif pour la saison prochaine, parce qu'il a déjà été signé, il est déjà arrivé, il s'entraîne et tout, c'est cool. Mais c'est quand même un mouvement qui a été fait en vue de la saison prochaine. Et quand on se dit, tiens, ouais, est-ce qu'il n'y aura pas des erreurs de casting? Quand tu prends un Argentin, alors bon, je ne le connais pas particulièrement ce joueur, je ne l'ai pas scouté non plus, voilà, on a nuancé par rapport à ça, mais voilà, ils ont souvent une image de joueur tédieux, impliqué, intense, quoi, en fait. Donc là, on se dit, bon, si c'est ce type de recrutement qu'on fait, voilà, c'est, ça va dans le bon sens. Après, on verra, on jugera sur le terrain. Il y aura accessoirement la Summer League. Je ne sais pas si on le verra sur la Summer League, parce que
ça va être réservé
au rookie, mais ça pourrait être l'occasion, on va dire, de le voir un petit peu dans le groupe.
On va faire la Summer League. Hein.
Ouais, non, mais après, je ne sais plus au niveau des conditions d'âge et tout, mais en tout cas, ça pourrait être une bonne première expérience pour voir tout ça. Mais est-ce que. Bon, après, ça ne sera pas le meneur titulaire, on est d'accord. Mais voilà, ça peut être notre troisième meneur ou un combo garde.
Bah, écoute, en tout cas, ça permettrait de resituer Quickley en poste 2 pur, en fait.
Ouais.
J'allais te dire qu'il peut être pas mal poste 2 aussi, le gars. Parce que moi, quand je l'ai vu jouer en Europe, là, il c'est pas un meneur pur. Hein. Il est grand et tout. Et je le vois bien en poste 2, un petit peu. C'est un combo guard, quoi. Pour moi, qui peut attaquer le cercle, qui peut driver, mais qui peut aussi organiser. Et en NBA, tu vois, c'est pas lui qui va. Après, peut-être que je me trompe et peut-être qu'il va se révéler là-dessus. Mais c'est pas lui que j'attends pour organiser le jeu et fluidifier notre jeu.
Non, c'est plus un joker en sortie de banc.
On attend tous un meneur titulaire référencé. Ça, c'est...
Après, tu vois, c'est quand tu mets Quickley, par exemple, ce mec-là ensemble, les deux peuvent porter la balle, les deux peuvent être faufolés en même temps. Ça, c'est
ouais,
sûr.
C'est ça, ouais.
Tu peux ne jamais savoir d'où ça va partir,
commence à m'appartir un peu comme il y avait D-Rose Quickley. Mmh. Ça peut être le même style. Ça peut te dire, bon, les deux peuvent porter la balle, les deux peuvent shooter, les deux peuvent driver. Donc après, ça t'apporte une créativité dont on a manqué
en
playoff. Donc ça peut pas faire de mal. Hein.
Bon, comme quoi le board t'affaire quand même à jeter un petit coup d'œil sur ce qui se passe en Euroleague, quoi. Et je pense que c'est partie des petites opportunités qu'il aurait fallu saisir. Parce que ce mec-là aurait été pris dans une autre franchise. Je pense qu'on en aurait parlé aussi. Donc
Non, ça peut être un bon move pour pas trop cher en plus. Donc voilà, effectivement, ça coûte rien de tenter ce genre de coup. Au pire, c'est une bonne surprise. Au pire, c'est une bonne surprise. Hein. Donc je veux dire, tentons. Mais bon, tout ça pour dire, je sais pas si on aura rassuré nos auditeurs du podcast. On n'a pas de certitude. Voilà, on a des attentes, encore une fois, sur cette free agency. Essentiellement sur le poste de meneur, parce que c'est sûrement là que ça pêchait le plus cette saison, hein, on est d'accord. Que Randall soit l'animateur offensif, c'était quand même une anomalie. Donc qu'il soit, on va dire, secondé comme il faut par un vrai meneur, et qu'un meneur d'expérience de préférence pour qu'arriver en playoff, voilà, y a cette menace qui repose pas, cette option... Enfin, numéro 1 en attaque, il soit pas que sur les épaules de Julius. Ça va être important, quoi. Ça va être important et ça va donner aussi un peu le ton de l'ambition de la saison prochaine, quoi.
En tout cas, moi, j'ai vraiment hâte d'avoir cette perspective-là. Je suis vraiment hâte de voir l'été des Knicks. De toute façon, là, messieurs, le temps passe, mais il va falloir conclure cet épisode 14.
Mais oui.
On avait pas mal de choses à dire et on va s'en garder pour les prochains. On va faire un dernier tour de table. Bon, on va commencer par Abdou, notre invité. Dernier mot de la fin.
Bah, le dernier mot de la fin. Une belle année avec une équipe vraiment de rêve pour moi, qui va nous donner beaucoup d'espoir pour l'année prochaine. On attend de voir ce qui va se passer cet été, et puis on se donne tous rendez-vous à la rentrée pour mettre le feu, quoi. Et la Knicks fan, la base, mais surtout la KNF team, hein, voilà, tous nos potes de la Knicks Nation France, on est prêt aussi à relancer l'assaut avec plein de petits projets. Oui. On n'en dit pas plus. Hein.
Oh non.
surprise pour la rentrée. Mais voilà, ça a été une année calme. Vous nous avez grave manqué, les gars, malgré les réseaux sociaux qui nous permettent de nous maintenir. Je dis les gars, mais c'est on va dire avec un grand G, les gars et les girls. Voilà, on va tout défoncer pour la rentrée. On sera derrière l'équipe et on compte sur vous.
Ah parfait, là c'est particulièrement alléchant. Juju, un petit mot de la fin pour toi.
Oui, intersaison passionnante, on l'a évoqué. Ça va être très intéressant de voir comment on va se positionner. C'est excitant comme rarement. Ça fait plusieurs intersaisons depuis le fameux été où on a récupéré notre ami Randle qu'on n'avait pas autant été hypé. Et là, on est vraiment très, très hypé parce qu'on sort d'une très belle saison. Hâte que les events KNF recommencent, que la saison recommence, que les saisons NBA et les saisons basket en France recommencent pour tout le monde. Puis se retrouver aussi autour d'un écran un soir, tous ensemble à partager la passion. Et puis après, ouais, j'ai entendu parler de 2-3 projets qu'il y a chez KNF, donc bravo. Et puis, c'était une, et puis kiffez bien, quoi.
Alors, on est dans le teasing. Hein.
Oui, allez, le mot de la fin pour toi, Joanny.
Ouais, bah écoutez, une super saison, c'est clair. On aurait préféré qu'elle dure un petit peu plus, mais on a quand même grave kiffé, et c'est vraiment là l'essentiel. Vous nous manquez, hein, tous les adhérents, vous nous manquez. On a hâte de pouvoir reprendre les événements, mais j'ai bon espoir parce que les vaccins arrivant, les masques tombant, on est deux sur la bonne voie. Donc comptez sur nous pour répondre présent. On compte sur vous pour aussi répondre présent lorsqu'on va pouvoir remettre tout ça en marche. Il y a des petites surprises, des grosses surprises ou des surprises. Bref, il y a de la surprise qui se prépare. On prépare des sujets plutôt intéressants. Donc activez les cloches, les notifs, ce que vous voulez, les follow, les shares, les partages, les retweets. Il y a des choses sur lesquelles on travaille dès aujourd'hui, parce que la saison, elle est peut-être terminée. Certains joueurs sont en vacances, mais pas nous, pas encore du moins. Donc on vous prépare des choses et qui devraient vous faire kiffer pour la rentrée.
Ah voilà, bah, je pense que tu as tout dit, Johanny. Pareil, très hypé par la saison qui s'est passée du côté de nos Orange and Blue. Évidemment, frustré parce qu'on n'a pas pu vraiment se retrouver autour d'événements KNF, mais rassuré et confiant sur l'avenir aussi bien pour Nonix que pour notre association. Et oui, il y a pas mal de choses qui se préparent, on se tient prêt. En tout cas, je tenais à vous remercier pour la force que vous nous donnez quotidiennement sur nos différents réseaux, que ce soit sur Twitter, sur Facebook, sur Insta. D'ailleurs, on vient de passer le cap des 1800 followers sur Insta, ça fait toujours plaisir. Et on vous attend de plus en plus nombreux pour nous soutenir et surtout partager avec nous votre passion d'Enix. Voilà. En tout cas, un grand merci à tous. Merci Juju.
Merci les gars.
Merci Johanny.
Merci, merci.
Salut Abdoul, merci à toi.
Merci à vous tous.
Et n'oubliez pas, Nix un jour, Nix toujours. On est toujours ensemble l'équipe. Allez, ciao.
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 I always will be a Nick, always will be a New Yorker. Thank you very much.
Hope you're ready for the next episode. Hey.